Boré Live présente
Joey O'B.
Joey O'B.
Joey. Oh, celui qu'on connaît comme étant Yeoj Ayoulbi, donc The Artist Formerly Known as Joey O'B, c'est ton nom de Facebook. Comment ça va?
Ça va, donc, ça va les boys.
Comment ça que tu t'appelles Yeoj Ayoulbi? À chaque fois, mettons, Doom Dumas me dit hey, « Joey, cette semaine, ok, parfait, je vais aller voir de quoi il parle. » Puis là, j'ai fait « Joey, voyons, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Yeoj Ayoulbi, donc c'est quasiment un nom. » Un nom israélien. Pourquoi tu t'es rebaptisé ainsi?
Ben, en tout cas, vu que tu viens de le dire en nom ou en complet, j'aurai pas le choix de me remettre comme normal avant. Là. C'est un peu le principe qu'on peut connaître de la misère à me trouver. Là.
Non, ben, ouais, mais fait, t'es populaire. T'es une figure publique. T'es tellement aimé.
Oui, c'est ça. Puis disons, ben, en fait, j'avais fait ça à l'époque de l'élection municipale à l'automne dernier. C'était plus par mesure de précaution que d'autres choses. Pas que j'ai rien à cacher, simplement que c'est ça. Je sais que je suis pas le seul à le faire aussi. Il y a d'autres que je ne nommerai pas en nombre, par contre, qui font la même technique.
Est-ce que je devrais le faire?
Personnel. Ben toi, je pense que tu es déjà assez
habitué. Domo Arigato, il y a quelques années, mais je ne vais plus sur ce compte-là. Donc, je vais avec mon vrai nom. Je suis démasqué. Ben,
c'est juste un petit fil de plus pour certains, c'est ça, membres des médias qui voudraient être fouinés un petit peu. Mais sinon, c'est pas que j'aime pas les gens. Okay. Au contraire, j'ai d'ailleurs une page publique pour ça.
7h56. Parlons ukamien. C'est un texte d'un ukamien qui est passé au cours des derniers jours dans Le Devoir. « Oh, Nukamien, moi je suis doctorant en management à l'UQAM, j'ai le droit d'écrire toutes sortes de choses sur l'extrême droite, entre autres. Mon nom c'est Sébastien Nukamien et j'écris toutes sortes de choses et j'écris entre autres que Bernard Drinville et Éric Duhaime sont des tenants de l'extrême droite. » Donc on fait de l'humour, non, c'est pas un texte de l'école de l'humour, c'est vraiment vrai, c'est arrivé cette affaire-là. Raconte.
Ben oui, ben tu gâches le punch un peu, mais en tout cas c'est le fun pareil d'en parler, c'est ça.
Je suis un divulgacheur.
Ah ouais, absolument. Donc, c'est quasiment une version prolongation du All You Can Eat de M. Doom Dumas d'hier, d'une certaine façon, dont la section idée du devoir, un texte est paru samedi dernier, dont l'image du texte, c'est bien évidemment la face d'Andrew Tate, of fucking course, l'éternel boogeyman, semble-t-il que...
Je le connais même pas, lui!
Ben, c'est un
peu... Je le connais pas, puis il m'intéresse pas. Je le connais pas.
Pour vrai, je vais reprendre les paroles de Frank dans le sens, à l'époque où c'est que Charlie Kirk était décédé, semble-t-il que personne ne le connaissait au Québec, mais Andrew Tate, supposément que toute la jeunesse le connaisse. Fait que essayer de trouver l'erreur là-dedans. Là. Mais c'est ça, on le présente comme l'image du texte. Et le titre du texte, c'est « On doit parler de la banalisation des discours d'extrême droite au Québec ». Fait que là, tu dis
« Ouh ».
Ça promet. Donc, l'auteur, comme tu l'as dit, c'est un certain M. Sébastien Burdalski, auteur et également candidat présentement au doctorat en management à l'UQAM et chercheur de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Donc, tu dis « OK, je voulais bien venir, je ne vous lirai pas le texte au grand complet. »
Un ukamien.
C'est un peu trop long. Oui, c'est ça, ukamien, bien évidemment. Il y a des petits mots intéressants, par contre, que j'ai le goût de vous faire parler, c'est ça. Fait qu'il nous commence en disant, regarde, le Québec n'est évidemment ni la France ni les États-Unis, mais certains éléments récents évoquent un déplacement du débat public qui mérite d'être discuté. Là, il prend l'exemple du fameux de la sortie du barreau du Québec face au gouvernement Legault sur certains projets de loi qu'ils font. En passant, le barreau du Québec, c'est drôle, il était bien silencieux durant la pandémie pour ce qui est de la protection des droits individuels puis la fragilisation de l'État de droit là-dessus.
Très silencieux. Les ordonnances ont été gouvernées par décret, ce qui est très, très louche. Quand c'était devenu à l'extrême, on a demandé au barreau de s'en mêler et le barreau vaillamment est assis sur ses deux mains.
Non, exactement. Fait que premièrement, parce que c'est ça, on nous parle de plein de mots ici, on parle d'extrême droite et tout ça, et on, bien évidemment, on définit pas nos termes, on ne donne pas nécessairement d'exemples précis de manifestations de ça au Québec, mais il semble-t-il, comme tu l'as dit, il y a deux figures au Québec qui se trouveraient à représenter cette montée de l'extrême droite. Premièrement, et je cite ici le texte, « Parlons d'Éric Duhaime. Plusieurs éléments de son programme s'inscrivent dans un ensemble de thèmes fréquemment associés au populisme de droite contemporain. » Donc, la baisse d'impôts, aide à la natalité, loi et ordre et crypto-monnaie.
Comme Hitler, même affaire. Hitler, je me souviens, faisait la promotion des baisses d'impôts. Ah, c'est dégueulasse! Moi, ça me fait vomir. Toi, sa biographie à un moment donné, là, quand il dit « je suis arrivé au Parlement, j'ai exigé des baisses d'impôts », quand je me suis mis à vomir, j'ai carrément dégobillé sur le livre. C'est dégueulasse. Ouais,
Puis il paraîtrait qu'il aimait les fraises aussi. Fait que les amateurs de shortcake aux fraises, un matin, ça va pas bien pour vous autres.
Ouais.
Il dit aussi que c'est ça. Il dit cette combinaison entre le populisme fiscal, rhétorique sécuritaire et les thèmes identitaires correspond à une configuration idéologique que plusieurs travaux associent à la droite radicale contemporaine.
Ah, c'est
fait que là, on a passé... Imagine tous les thèmes. On a extrême droite, on a populisme de droite contemporain, on a populisme fiscal et droite radicale contemporaine. Là, il faudra qu'on me l'explique. Là. C'est-tu un synonyme pour dire la même affaire? Ou c'est
mon choix, mon choix, c'est exactement comme... c'est ça qui est écrit à Auschwitz, quand tu rentres, là, mon char, mon choix. Ah non, c'est pas ça. Je le vois au loin, là, j'ai mal traduit. C'est complètement débile. Tu peux l'écrire dans ton bureau en fumant un gros bat, mais c'est publié dans un journal soi-disant respectable. Ouais, c'est vrai, ils ont mis dehors Christian Chose, là. Ouais.
Rio, hein?
Christian Rio.
C'est ça, puis... Puis le pire, c'est que, je le répète, on parle d'un candidat au doctorat ici, là. Le gars a fait son bac, a fait sa maîtrise.
Puis Camille full patch.
Puis même pas capable de faire un sujet amené, poser, diviser, puis nous donner nos termes, puis nous être assez coordonnés pour nous expliquer ça. On lance les 36 millions de thèmes, puis les étiquettes là-dessus, sans, à part quelques vagues ici et là, pour nous dire finalement qu'être de droite économique, c'est rendu quasiment être pro-nazi, là.
Bitcoin égale nazi. Les crypto-monnaies, c'est quasiment... C'est de la crypto. Éventuellement, il y aura un procès de Nuremberg et tu seras traduit en justice. Je voulais pas te le dire, mais regarde, c'est officiel. Vous allez tous être traduits en justice.
Ah non, c'est ça. Puis c'est pas tout. Il y a également Bernard Drainville en affirmant, et là, je cite ici, que les... En affirmant que les travailleuses qui ont perdu leur emploi en raison du refus de retirer leurs signes religieux ont fait le choix de perdre leur emploi, ils participent à la banalisation des discours anti-immigration et plus largement islamophobes. Dans sa sortie récente, il va plus loin. Il propose de faire deux classes de citoyens. D'un côté, les vrais Québécois avec des droits fondamentaux et de l'autre, les demandeurs d'asile, auxquels il propose de limiter l'accès à l'aide sociale à 6 mois, de supprimer l'allocation logement et de faire passer au second plan pour les logements sociaux, tout en demandant au gouvernement fédéral de restreindre le droit d'asile et retarder l'accès à la résidence permanente.
Ah, c'est dégueulasse. Bernard, là, quand il s'est... Il enlève sa chemise le soir, après une journée, il enlève sa chemise, là. Là, je l'imagine dans le dos, grosse croix gamée. Tu sais, il est dans la chambre, là, il fait ses pipes devant le miroir, des grosses croix gamées. C'est complètement débile, ce texte-là.
Puis le pire, c'est
un texte qui est publié au Québec, là. Ça, c'est du Walkeroni ultra épicé, là.
Dans la source dite crédible que nos profs de littérature au cégep arrêtaient pas de nous dire. Faut que vous lisiez Le Devoir, ça, c'est crédible. Et lisez pas le Journal de Québec, voyons, ça n'a pas de bon sens. Le Devoir est crédible. Ah non, puis sérieusement, écoute, puis à la fin du texte, je n'en parlerai pas nécessairement, mais là, il tombe dans la classique masculiniste des dernières semaines, puis nous jase d'être tête un peu, puis des jeunes, mais c'est tellement vague. T'sais, on a l'impression de parler du boogeyman, c'est un peu comme le monstre en dessous de votre lit quand on était petit, l'extrême droite s'en vient au Québec. Ce qui est chiant, c'est que des groupes groupuscules qui s'identifient, c'est vraiment des groupes extrêmes, à droite comme à gauche, ça existe, c'est ça l'affaire. Mais à force de taguer littéralement tout le monde on les voit
ça
plus.
Ça devient
c'est aussi simple que ça.
C'est ça.
En plus, la réalité, c'est que, on va en parler un peu, c'est qu'en France, il y a une réalité tout autre qui joue présentement avec un sondage qui est sorti récemment, que je voulais également discuter, un sondage de la firme Têtu, donc une firme qu'on connaît moins ici, vu que c'était plus européenne, qui nous disent que...
Qui n'a rien à voir avec Fred Têtu.
Clairement pas. On a vraiment un autre sujet. Mais c'est ça, on parle des intentions.
Tu peux finir avec ça. Il nous reste à peu près 4-5 minutes. Tu peux finir avec ça. Parce que t'es gay, là, je viens de le dire. Je viens de. T'es assez ouvert à ce niveau-là. Puis tu m'as envoyé ça hier. Et tu sais, on a la réflexion, bien sûr, bien portée par les médias bien pensants du Québec. Un gay de droite, voyons donc, ça n'a pas d'allure et tout, mais les données de ce sondage-là, sondage de tête de la firme Têtu, sont quand même assez révélateurs, on va le dire comme ça. Qu'est-ce que ça dit, ce sondage-là?
C'est ça, on parle des intentions de vote au premier tour de la prochaine présidentielle, donc qui va avoir lieu l'an prochain en 2027, versus les données de 2022, donc la dernière, il y a environ 4-5 ans. On parle des intentions de vote, justement, de la communauté LGBT selon les différents partis. Ben, imagine-toi donc que ce qui est en tête au premier tour, c'est le Rassemblement national de Jordan Bardella avec 27 %. qui est une hausse de 10 % par rapport à 2022, suivi de la gauche de Jean-Luc Mélenchon à 25, qui est une augmentation de 15 % Là, on parle bien sûr de l'ancienne Macronie de Gabriel Attal, plus au centre, on parle ici d'autour de 17 % les socialistes à 10, les républicains à 6 et les écolos à 6. C'est bien important de comprendre...
les écolos sont dans le bac de vidange, quand même drôle. On m'a toujours dit spécial, que ça allait dans le bac bleu, c'est dans le bac vert.
Il faut quand même comprendre que les LGBT sont quand même encore beaucoup de gauche, sachant qu'autant que le LFI, ils ont 25 % des LGBT, mais par rapport à leur intention de vote, qui sont 13 % des Français, tandis que le RN a 27 % pour un ratio de 36 % des Français. Fait qu'on voit que, malgré tout, il y a encore beaucoup qui sont à gauche, mais...
Oui.
On voit clairement qu'il y a une augmentation. Là. Clairement, comme le fameux schisme que je parle souvent au sein de la communauté LGBT sur bien d'enjeux, autant sur les dérives du mouvement en tant que tel, mais sur les questions de l'immigration, sur les questions du coût de la vie aussi, on voit clairement que ça rejoint beaucoup de gens. Et on voit clairement que autant qu'il y a encore 56 % selon le sondage des LGBT qui s'identifient de gauche, ben, je te confirme qu'il y a 10-20 ans, c'était pas mal plus élevé que ça. Là. Mais là, on voit clairement que tranquillement, mais sûrement, il commence vraiment à avoir une certaine division, si je peux dire, au moins en France, puis c'est pas pareil.
Et moi, ce que je constate en terminant, c'est que tu es en train d'exposer le bris des idées préconçues. Tu sais, l'espèce de prémoulage, les idées préconçues. Donc, moi, ça fait du bien à entendre ce matin. Mais faites attention à Bernard Dréville et d'extrême droite.
C'est différent par rapport aux différents pays, parce que c'est ça, j'avais sorti également les chiffres pour les présidentielles américaines, puis c'est drôle parce que les républicains, tu sais, Trump a fait juste 12 % du vote LGBT en 2024. Surprenamment, il a fait 27 en 2020. Les républicains ont fait 14, ils ont baissé à 14 en 2016, puis en 2012, ils avaient fait 22. Fait que ça baisse tout le
quand
temps.
Même.
Aux deux élections, ça monte, puis ça baisse. Fait que, autant que c'est pas la même réalité, mais tu vois quand même qu'il y a une certaine tendance, tranquillement, mais sûrement. Fait que c'est vraiment de pays à pays. Mais la France semble être le fer de lance, du moins à ce niveau-là, par rapport à l'acceptance. Pour moi, l'ouverture à des discours plus de droite au niveau de la communauté LGBT. Fait que bonne nouvelle.
Donc, les détenteurs de cartes de membres du PCQ, soyez avisés. Vous êtes sous observation par les Ukamiens. Donc, faites attention ce matin. Vous êtes d'extrême droite. Vous voulez des baisses d'impôts, donc c'est pareil comme Hitler. Même chose. Hey, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Merci. Salut. Bye. Il était à ôter. Un Ukamien parmi tant d'autres, diront certains.